Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus.
Nous avons la parole de Dieu
ici, Jabodima,
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Je suis heureuse parce que ce soir on va parler de la femme, la relation avec la femme, avec son mari, les enfants. Mais c'est bien parce qu'il y a à la fois les hommes. Parce que les hommes aussi ont besoin d'entendre le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu pour la femme? Il y a des jeunes filles. Et c'est bien pour les jeunes filles, avant de se marier, de savoir quel est le cœur de Dieu pour la femme. Il y a des jeunes hommes. Et puis c'est bien pour les jeunes hommes aussi d'entendre quel est le cœur de Dieu pour la femme. Amen. Vous savez, quand on démarre dans la vie en ayant des outils, c'est tellement plus facile. Vous ne croyez pas? Pour la plupart d'entre nous ici, on a démarré dans la vie chrétienne sans avoir les outils pour vivre notre vie avec Dieu. Alors c'est vrai qu'on a la parole, mais on a besoin d'être enseigné. On a besoin de comprendre les rudiments de la vie. On a besoin d'entrer dans les choses pratiques de Dieu. Vous savez, souvent il y a des gens qui se convertissent. Et ça, on a eu l'occasion de l'entendre. Les gens sont venus nous trouver en nous disant, on a eu beaucoup d'enseignements, on vole là-haut. Et c'est vrai, c'est bien de voler là-haut avec le Seigneur, ça fait du bien. Mais dans la vie de tous les jours, on a besoin d'apprendre à vivre avec Dieu. On a besoin d'apprendre à vivre avec ce qui est pratique. Vous savez, les gens qui nous voient vivre autour vont être interpellés par ce qu'on vit, non pas par ce qu'on va dire. Nous, dans notre église, on a un slogan. Et ce slogan, c'est « Ce que je vis crie plus fort que ce que je dis ». Vous savez, le nombre de fois où les gens ont dit « Comment tu te dis chrétien et tu vis ça ?» On a tous vécu plus ou moins des choses qui n'ont pas été à la gloire de Dieu. Il faut le reconnaître. Mais ce qui est merveilleux pour ceux qui étaient là dimanche soir, il a été question que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on entend des enseignements qui nous remettent en question ou qui nous permettent de dire « Ah, ce que je pensais quand j'ai lu la parole, c'était bon. » Lorsqu'on entend ces enseignements, c'est le bon moyen pour dire « Ok, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, il y a eu du bon. Gloire à Dieu pour le bon. Je garde le bon. Il y a eu du mauvais, mais le mauvais, je le mène à la croix. » Amen. Alors, il y a la repentance et puis il y a le pardon de Dieu. C'est pas beau, ça? Dieu est bon. Dieu est bon et il n'est pas là pour nous accuser. Il est là pour nous faire aller plus loin. Plus loin avec lui. On a tous dans notre cœur ce désir d'avoir des maisons saines. Des maisons où les hommes sont des hommes responsables. Et mon mari demain soir parlera de l'homme, de sa position d'homme, d'époux, de père. Ce soir, c'est pour la femme. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir des maisons où les hommes sont responsables, où les femmes sont libres, épanouies en Jésus. Et puis les enfants sont là, bien heureux, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir. Hein, on va pas. Quand les enfants grandissent, ça crée des problèmes, vous le savez, c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas d'exception. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, il n'y a pas des problèmes, il y a des solutions. Amen. Et ce qui est bon, c'est que lorsque la maison est saine, elle est capable de recevoir. De recevoir comme une personne, quand elle est saine. Elle est capable de recevoir et d'aller vers ceux qui ont besoin de Jésus. Est-ce que ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle? D'aller vers ceux qui ont besoin de Jésus. Mais nous voulons apporter l'évangile de la vie, avec tout ce qui est pratique avec. Seigneur est bon, et ce soir nous allons parler de la femme. La femme, je dis toujours, c'est l'être, enfin la création la plus formidable de Dieu. N'est-ce pas mes sœurs? Vous êtes d'accord, hein? Ce que j'aimerais préciser ce soir, c'est que lorsque Dieu a créé la femme, il l'a créée avec amour. Au même titre qu'il a créé l'homme masculin avec amour, il a créé l'homme féminin avec amour. C'est bon de savoir ça, hein? On n'est pas né un beau jour comme ça, il ne nous a pas créé parce que le Seigneur s'est gratté la tête, il a vu que l'homme avait besoin de quelqu'un, de qu'est-ce que je vais faire? Non, on était déjà dans son cœur. On était déjà dans son cœur. Il avait pensé à nous. Il avait pensé à créer la femme. Dans Genèse 2, versets 21 à 23, on voit que Dieu plonge l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici, bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Genèse 2, versets 21 à 23. Et là, on voit que Dieu a endormi l'homme et il a pris une de ses côtes. Toutefois, quand il est dit « côte », il faut savoir que ce mot-là est tiré du mot grec « tsela ». Alors, pour ceux qui prennent des notes, « tsela » s'écrit « t-s-e-l-a ». Et « tsela » veut dire « côte » ou « côté » ou « flanc ». C'est-à-dire que l'homme, que Dieu a tiré la femme du côté de l'homme. Dieu a tiré la femme du côté de l'homme. Et il y a un homme, une citation d'un monsieur qui s'appelle Matthew Henry, qui dit « Si l'homme est le chef de la femme, elle est sa couronne. Une couronne pour son époux. La couronne de la création visible. L'homme était de la poussière raffinée. Dieu a utilisé de la poussière qu'il a raffinée. Mais la femme doublement raffinée. Elle était éloignée de la terre d'un pas de plus. C'est pourquoi elle est la gloire de l'homme. » Et quand il dit qu'elle était éloignée de la terre d'un pas de plus, ben ça veut dire que Si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que Dieu a créé les animaux de la terre, d'accord? Il a créé l'homme à partir de la terre, mais il a créé la femme à partir de l'homme. C'est le seul être qui n'a pas été tiré directement de la terre. Elle a été tirée directement de l'homme. Amen. Genèse 2, verset 18. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. D'autres versions disent, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et lorsqu'on regarde l'étymologie du mot aide, ce mot aide qui vient du mot hébreu ezer, E-Z-E-R, qui veut dire aide, secours, secourir. Qui veut dire aussi, et d'après Ezer Kenegdo, vis-à-vis. Dieu savait que l'homme avait besoin d'une aide. Et quand il a créé cette aide, il a créé un vis-à-vis. Amen. C'est important de redonner au mot la vraie signification. D'après l'étymologie du mot du départ. Et la vraie signification, c'est vis-à-vis, rocher, une personne plus forte, une personne qui aide dans le besoin. Dieu a créé la femme comme étant le complément de l'homme. Son complément, son vis-à-vis, sa vis-à-vis, celle qui va combler ses faiblesses. Amen. Ça, on va en parler un peu plus, d'une façon plus pratique, là, un peu plus tard. Et là, on va aborder la relation de la femme avec son mari. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette relation, elle a été faussée, quelle que soit la culture, quelle que soit la civilisation, la relation de la femme avec son mari a été faussée. Et on va voir pourquoi. Dans Colossiens 3, versets 18 et 19, il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Ça, c'était Colossiens 3, versets 18 et 19. Ensuite, il y a Éphésiens 5, versets 22 et 25. 22 à 25. Il est dit encore, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux passages? Qu'il est dit par deux fois, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Alors on va voir d'un peu plus près qu'est-ce que veut dire « soumise ». Et ce mot « soumise » vient d'un mot grec, « hypotasso », « H-U-P-O-T-A-2-S-O ». Pour ceux qui prennent des notes, c'est bien de pouvoir l'écrire. Vous pourrez vérifier après. Donc ça vient du mot grec, hypotasso, qui veut dire se soumettre dans une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Ça, c'est le réel sens de soumise. Et ce mot, on se rend compte qu'au fil du temps, il a été dénaturé. Il a été vidé de son vrai sens. Parce que lorsqu'il est question de soumission, qu'est-ce qu'on voit? Dans Colossiens 3, 18, il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Comme il convient dans le Seigneur. C'est-à-dire que là, il est question de soumission comme il convient dans le Seigneur. Il est question de soumission volontaire selon ce qui est acceptable dans le Seigneur. Selon ce qui est acceptable, c'est-à-dire pas n'importe quoi, justement. Vous savez, dans le cœur de Dieu, il n'y a pas d'oppresseur et d'oppressé. Amen. Christ lui-même, il est venu en serviteur. Et là, il n'est pas question pour l'homme d'agir en dictateur. C'est pas ça que Dieu nous demande. Et là, il est question d'un travail en commun entre l'homme et la femme. On va le voir plus tard. Amen. Donc il est question de soumission volontaire, de coopérer dans sa part pour la femme. Dans sa part, selon ce que Dieu demande. La soumission, elle ne s'impose pas, c'est une attitude de cœur. Mais, Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Dans Colossiens aussi, on voit qu'il y a, au départ, il est dit « Soyez soumis », mais après, on voit qu'il est dit « Marie, aimez vos femmes. » Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Là, il y a un grand mystère. Christ s'est donné pour l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Là, il est question d'un amour sacrificiel. Et il est clair pour une femme d'avoir un homme, un mari, qui donne tout le bon pour elle et qui recherche la face de Dieu pour savoir comment il va donner sa vie pour son mari, la femme n'a pas de mal à être soumise à un tel homme. Un homme soumis à Dieu, pas de problème, la femme n'a pas de mal à se soumettre à lui, parce qu'il donne sa vie. Un homme qui est soumis à Dieu donne sa vie pour sa femme. Là, c'est mon mari qui en parlera demain soir d'une façon pratique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas mon rôle. Mais quand même, on soulève cette chose-là. Quand il est dit à l'homme, à la femme d'être soumise, il est dit au mari d'aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est important. Si le mari est le chef, cela veut dire qu'il est l'autorité, mais l'autorité sécurise. L'autorité élève. L'autorité ne domine pas. Il n'est pas question de domination. Vous savez, j'ai une fois, pour un petit exemple, j'ai plein d'exemples, mais celui-là, il m'a spécialement marqué. Nous étions invités chez un couple, on était plusieurs, et la dame, la femme, avait préparé tout un repas, et puis malheureusement, quand elle a fait cuire les poulets, et malheureusement, elle les a oubliés au four. Ça arrive. N'est-ce pas ? On n'en fait pas des bêtises. Moi, le nombre de plats que j'ai fait brûler parce que j'ai oublié, je mets sur le feu, puis je pars faire autre chose. Et donc, elle a fait brûler les poulets. Et nous, on est arrivés. Et au moment de passer à table, on était plusieurs amis à être présents. Au moment de passer à table, le mari, pour montrer qu'il était le chef et qu'il accomplissait bien sa tâche, avant qu'on s'assoie et qu'on bénisse le repas, il a dit à sa femme, « Demande pardon parce que tu as fait brûler le poulet. » Eh bien, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'a ni plus ni moins que humilié sa femme. Et là, il a touché à sa dignité. Et j'ai plein d'exemples comme ça où on voit un homme qui humilie sa femme en public sous prétexte d'autorité. Mais la seule chose qu'il fait, c'est qu'il touche à sa dignité. C'est tout ce qu'il fait. Donc il est question de soumission volontaire à un mari qui va tout faire pour sa femme. Amen. Un homme a dit, « Montre-moi un homme qui aime sa femme de manière désintéressée et je te montrerai une femme profondément heureuse. » Si l'homme aime sa femme de façon désintéressée, la femme est heureuse, elle n'a rien besoin de plus. Amen. Mon mari vous en dira plus long sur ce chapitre-là. En fait, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 11, versets 1 à 12, il est dit « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Tout vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait l'apôtre Paul là, par ce texte ? Il nous interpelle sur une chose très précise. Il nous interpelle sur le fait qu'il y a interdépendance entre l'homme et la femme. Parce que la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme existe par la femme. L'un et l'autre se doivent la vie. Le texte est clair. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Amen. Galates 3, 28, il est dit, il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous égaux, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous rappelle que nous sommes tous égaux en dignité devant le Christ. Il n'y a aucune différence entre l'un ou l'autre. Tous égaux en Jésus-Christ, et c'est vrai pour l'homme et la femme, comme pour le reste. L'homme et la femme sont égaux, mais différents. Différents pourquoi ? Parce que complémentaires. Autrement, on n'aurait pas de raison d'être différents. On serait pareil. Et ce n'est pas le but. Si la femme doit être ce vis-à-vis pour l'homme, c'est qu'elle a quelque chose de différent qui va être complémentaire à l'homme. Amen. On ne peut pas refaire les choses. La soumission et l'autorité se vivent dans la complémentarité, tout simplement. Alors, comment vivre cette complémentarité? Bien, elle se vit dans une dimension d'équipe. Rappelez-vous, dans Genèse 1, verset 28, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Mais Dieu l'a dit à qui? Aux deux. L'homme et la femme ont reçu tous les deux le même mandat de travailler ensemble à la gestion de la terre. Amen. Donc c'est une équipe qui va collaborer dans la vie de tous les jours. Le couple, selon Dieu, devient une équipe dans laquelle il n'y a pas de concurrence, mais des rôles définis. Des rôles définis qui permettent une complémentarité. On ne va pas demander à un homme de faire le travail d'une femme ou d'être une femme, et vice-versa, c'est impossible. C'est impossible. Et si je vois mon mari en tant que mon complément, alors il n'est plus du tout, pour moi, un danger. Parce que souvent, on va réagir parce qu'on a l'impression que l'autre va toucher à notre liberté. Mais si je vois en lui un complément, alors il n'est plus une menace pour moi. Amen. On peut définir ses rôles, donc dans cette équipe, avec des mots précis. À savoir que l'homme a reçu une autorité, et on l'a lu plusieurs textes, une autorité officiellement déléguée par Dieu, mais la femme, elle a reçu un rôle d'influence, officiellement délégué par Dieu. Et l'influence, mes amis, si on regarde dans la parole, on ne peut pas le faire maintenant parce qu'il y aurait de quoi faire toute une session. L'influence des femmes, dans la parole, on peut étudier plusieurs femmes, elle est très forte et elle peut être soit néfaste, soit bonne. On peut voir Sarah, on peut voir Déborah, puis on peut voir aussi Jézabel, Athalie. Ce sont des femmes qui ont été là, qui par influence ont soit amené des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Donc, l'influence est importante. Et si on revient à 1 Corinthiens 11, verset 12, où il est dit, « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » On en déduit que la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme ne peut pas exister sans la femme. Ça va de soi. Ça veut dire que l'autorité a besoin de l'influence et l'influence a besoin de l'autorité. Et la boucle, elle est fermée et on revient au même principe. Vous savez, moi j'étais, pour ceux qui ont entendu mon témoignage, ceux qui ne l'ont pas entendu, il y a toujours le CD qui est en vente. Et dans ce que j'ai vécu, à un moment donné, sans Dieu, j'ai pris ma liberté. Je travaillais, j'avais des amis, je faisais du sport, je partais en week-end faire du sport avec mes copains, je laissais les enfants à la maison avec le mari, et je disais être une femme libérée. Amen. Et puis, croyant être heureuse de l'être. Malheureusement, dans cet état de femme soi-disant libérée, j'ai goûté très profondément à la dépression. Pourquoi? Parce qu'une femme, lorsqu'elle n'est pas sous l'autorité de son mari, c'est-à-dire sous la protection de son mari, elle prend les coups durs de la vie en pleine face. Et comme elle n'est pas faite pour ça, alors elle se détruit. Elle se détruit. Et plus elle se détruit, plus elle fait de la dépression. Et moins elle est bien. Par contre, elle a besoin de sécurité. Et lorsqu'elle se place sous la protection de son mari, alors, c'est le mari qui absorbe les coups durs de la vie. Vous êtes d'accord que des coups durs, on en traverse tous? Je connais personne qui dit, moi, tout va bien, j'ai jamais rien eu. Gloire à Dieu si vous avez jamais rien eu. Et on va pas courir après les coups durs, hein. Ça, on a. Seigneur, si on peut s'en passer, c'est très bien. Mais quand ça arrive, le fait que le mari absorbe les coups durs pour elle, alors elle est suffisamment forte pour, dans ces moments difficiles, elle devienne ce soutien pour le mari. Amen. C'est ça qui fait toute la différence entre la femme libre sans Dieu, puis la femme libre avec Dieu, qui se met dans le plan de Dieu. Alléluia. Seigneur est bon, vous savez, il n'a rien fait pour rien. Il sait toutes choses. Et si on l'écoute, si on le laisse faire dans nos vies, qu'est-ce qu'on est bien. Parce que autant avant, moi j'ai vécu cet état de dépression, autant maintenant, qu'est-ce que je suis bien. Amen. Alors on va parler du rôle d'influence de la femme. Alors comme je disais tout à l'heure, on voit que ce rôle d'influence est une force. Et il peut être soit néfaste, soit constructif. Mais Dieu a créé la femme à son image. Il lui a donné tout ce qu'il faut pour penser, réfléchir, agir, travailler et pour donner son avis. Amen. La femme, c'est pas une potiche qui reste dans un coin. C'est pas ça son rôle. Et on va voir que ce rôle d'influence, il s'actionne avec l'autorité dans la vie de tous les jours. Et si on réfléchit un petit peu, est-ce que c'est pas cette vie de tous les jours qui crée des problèmes? Parce que quand il y a des décisions à prendre où on n'est pas d'accord, c'est pas là que viennent les disputes et les problèmes. Donc c'est là qu'on va voir d'une façon pratique. Parce que dans la marche quotidienne du foyer, c'est là, en fait, que les rôles vont travailler ensemble, l'autorité et l'influence. C'est-à-dire que la femme et l'homme vont travailler à prendre des décisions ensemble pour la marche du foyer. Et il y en a des décisions à prendre. Lorsqu'il faut acheter des meubles, lorsqu'il faut acheter une maison, lorsqu'il faut mettre les enfants à l'école, la gestion du budget, etc., etc., j'en passais des meilleurs. Vous le savez comme moi, il y a beaucoup de choses dans la maison à gérer, dans la vie de tous les jours. Et c'est là où il y a besoin de partager que l'influence et l'autorité, l'homme et la femme, vont ensemble partager pour prendre les décisions. Éphésiens 4, 29, il est dit « Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. » Et ça, c'est vrai aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire que l'homme et la femme vont construire leur foyer ensemble, prendre des décisions ensemble, mais dans un climat de partage. Et il est bon que l'homme et la femme prennent les décisions ensemble, sans que soit l'homme qui impose sa volonté. Ils vont ensemble prier et recevoir la volonté de Dieu. Amen. On a connu des cas où c'est l'homme qui décide de tout. On a connu un couple, justement, quand on a parlé des conflits dans le foyer, ce couple-là disait, nous, on se dispute jamais. Alors, on a trouvé ça extraordinaire parce que c'est rare. En fait, c'est le seul qu'on a rencontré. Mais, quand on les a un petit peu vus vivre, et puis moi, j'ai parler un petit peu avec la femme, en fait, pourquoi ils disputaient jamais? Ben, tout simplement parce que l'homme prenait toutes les décisions et la femme disait amen à tout. C'est pas ça que Dieu demande. Je crois que la femme, elle a son mot à dire. Pourquoi est-ce que la femme va enlever la poussière tous les jours sur un meuble qu'elle aime pas, qu'elle a pas choisi? Je crois que le plus simple, c'est tout simplement d'aller choisir un meuble ensemble, puis tant qu'on n'en a pas trouvé un ensemble, tant qu'on n'en a pas trouvé un qui plaît à tous les deux, ben on attend. Pourquoi est-ce que l'homme, ou peut-être même la femme, va imposer un goût à l'autre? Non, puisqu'on vit ensemble. C'est pareil pour l'éducation des enfants. Quelles sont les valeurs qui font l'éducation qu'on va donner à nos enfants? Alors on va en parler ensemble, prendre des décisions ensemble. Toutefois, il y a des fois où il faut prendre des décisions rapidement. C'est vrai. Des fois, on a le temps, puis d'autres fois, on n'a pas le temps. Il faut prendre les décisions rapidement. Alors là, c'est bon. Peut-être que la femme dise à l'homme, ben écoute, moi, je ne sais pas, mais puisqu'il faut prendre une décision, je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses ou ce que tu dis. Mais puisqu'il faut prendre une décision, eh bien, prends-la. Et puis l'homme, peut-être qu'il prendra sa décision, ou peut-être qu'il dira à la femme, ben écoute, si tu veux, on prend la tienne. Mais de grâce, quelle que soit la décision que prend l'homme, faites-lui grâce de l'erreur qu'il pourra faire. Est-ce qu'on ne peut pas se tromper une fois de temps en temps? Amen. Donc, en aucun cas, le mari, parce qu'il a l'autorité, va imposer une décision sans avoir pris le temps de parler avec sa femme. Pour tout ce qui concerne la maison. Dans le partage et l'écoute mutuelle, il y a beaucoup plus de chances de recevoir le conseil de Dieu. Un peu plus du conseil de Dieu. Parce que l'homme n'a pas tout reçu, comme la femme n'a pas tout reçu. C'est ça l'harmonie du royaume de Dieu. Proverbe 14, verset 1, il est dit, la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. Et on a malheureusement rencontré beaucoup d'hommes, pas mal, dont la femme prenait le dessus. Et lorsque l'influence prend le dessus sur l'autorité, le couple est en danger. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à ce phénomène où l'homme, comme il n'arrive pas à prendre sa place, il démissionne. Et comme il démissionne, alors la femme se voit contrainte de tout faire. Et après, on rentre dans ce cercle infernal où la femme reproche à l'homme de rien faire. Et l'homme reproche à la femme de ne rien le laisser faire. Et là, il y a beaucoup de disputes. Là, le couple est en danger. Voilà, on a rencontré un couple, notamment, où l'homme, il avait même un appel au ministère. Et il y avait quelque chose de puissant sur sa vie. Et sa femme ne l'a pas laissé entrer dans ce que Dieu voulait. Ce qui fait que l'homme a reculé de toutes ses responsabilités à la maison et à l'église. C'est une perte, mon ami. C'est vraiment une perte, mes amis. C'est dommage. On a besoin d'être sage en tant que femme. Donc la confusion des rôles, si l'influence devient l'autorité et que l'autorité devient l'influence, là, c'est le danger absolu pour le couple. La femme du proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Et j'ai parlé avec un pasteur assez âgé, oui, il a plus de 70 ans. Ce pasteur-là en question, il est aussi professeur d'hébreu. Et j'ai voulu parler avec lui un petit peu de certains termes dans la Bible. Et quand on a parlé de la femme vertueuse, il m'a dit, tu sais, la vraie traduction, c'est pas femme vertueuse, mais femme courageuse. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce que c'est quand même, ça paraît plus accessible. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que quand on voit ce mot de femme vertueuse, on a l'impression que c'est haut, que c'est pas accessible, qu'on pourra jamais y arriver. Mais là, non, il m'a dit, mais non, une femme courageuse. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même plus accessible. Ça fait du bien de savoir ça. Parce que quand même, mes sœurs, vous le savez, il en faut du courage pour être femme, pour être mère, pour s'occuper de sa maison, pour s'occuper de tout ce qui fait de la vie tous les jours, il faut du courage. On a du travail, hein. On en a des choses à faire, hein. Lorsqu'on étudie ce proverbe, on voit que cette femme du proverbe 31, elle est épanouie, elle est responsable, elle est travailleuse, elle n'est pas repliée sur elle-même. Elle fait plein de choses dans lesquelles elle s'épanouit. Au verset 25, on voit qu'elle est optimiste. C'est-à-dire qu'elle se crée, elle se rit de l'avenir. Elle est capable de créer une atmosphère chaleureuse dans sa maison. Elle est capable d'initiative et elle dirige sa maison. Il est dit, elle est comparée à un navire marchand. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? En général, c'est elle qui va s'occuper de veiller à ce qu'il manque rien dans la maison. La nourriture, les vêtements pour les enfants. tout ça, elle va pas attendre que d'aller demander, chérie, je peux acheter, j'ai 3 yaourts à acheter, je peux les acheter. Faut être sérieux. La femme, elle va veiller à ce que rien ne manque dans la maison. Et, vous savez, on en rigole. On en rigole, mais je connais des femmes qui, sous prétexte d'être soumises, avant de faire les courses, elles vont demander au mari qu'est-ce qu'elles doivent acheter. Et c'est pas ça que Dieu demande. C'est pas ça que Dieu demande. Et puis elle s'occupe aussi de sa maison. Et vous savez, quand on rentre dans une maison, il y a la couleur, il y a la décoration, il y a tout ça, on sent que c'est la femme. C'est la femme qui va donner une personnalité et une couleur à la maison, une odeur aussi. C'est la femme, qu'on le veuille ou non. Au verset 17, elle ceint de force ses reins. Toujours au Proverbe 31, au verset 17, elle ceint de force ses reins. C'est-à-dire qu'elle puise sa force en Dieu. Elle sait que son Seigneur est vivant. Et quelles que soient les calamités de la vie, elle va puiser ses forces en Dieu. Parce que de toute façon, on ne peut pas les puiser ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire ailleurs? On recevra rien d'autre que de meilleur que ce qu'on peut recevoir dans la présence de Dieu. Elle sait que son Seigneur est vivant. Et au verset 30, elle craint Dieu. Elle veut tout faire pour lui plaire. Elle veut remplir sa maison de la présence de Dieu. Une femme qui craint Dieu veut remplir sa maison de la présence de Dieu. Ça, c'est celle du Proverbe 31. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là aussi, il faudrait une session, rien que pour développer tout ce proverbe. Mais la femme, en fait, elle doit chercher à s'épanouir en tant que femme. Et c'est bien qu'elle ne vive pas en vase clos. Bon, celle qui travaille, elle a automatiquement des relations à l'extérieur. Mais celle qui travaille pas, c'est bien qu'elle puisse avoir des amis, qu'elle puisse aller parler à d'autres du Seigneur, qu'elle puisse faire du sport, de la danse, de la couture, ce qu'elle a envie, mais avoir un terrain où elle sort de sa maison pour justement être un peu cette femme en dehors de tout ça, là, la maison, les enfants, tout ce qui fait sa vie de tous les jours. Elle a besoin de s'épanouir dans certains terrains. Vous êtes d'accord? Autrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en rond dans sa maison et lorsque le mari rentre, elle va tout attendre de lui. Mais l'homme ne peut pas tout lui donner. C'est impossible. Oh, il faut qu'elle se réalise un petit peu. Il faut qu'elle fasse des choses qui lui fassent du bien aussi et qu'elle se réalise en tant que femme. Et cette femme en question, en dehors de s'épanouir en tant que femme, il y a d'autres dimensions aussi qu'elle va développer, manifester. La première dont je voudrais parler, c'est la dimension de mère ou le rôle de maman. Alors bien sûr, la maman, c'est celle qui veille besoin de ses enfants. La femme, elle a reçu cette capacité d'enfanter. Et ça, c'est quelque chose de fort. Parce que non seulement elle va mettre ses enfants au monde une première fois sur le plan physique, biologique, mais après, il y a tout ce qu'elle va donner pour ses enfants, pour qu'elle les enfante une deuxième fois. Et là, il est question de deuxième naissance dans le Seigneur, où elle va conduire ses enfants à Dieu. Elle va les conduire à Dieu en les enseignant, en les aidant à craindre Dieu, en les entourant, en priant pour eux. Vous savez, moi, j'ai une de mes filles, c'était celle avec laquelle j'ai vécu le plus de choses pénibles. Elle a été difficile à l'adolescence, elle a été rebelle, elle nous a causé des ennuis. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant, elle sert le Seigneur avec son mari. Elle est chantre, elle est formidable. Mais elle a eu quelques années, là, 2-3 ans, où il fallait être derrière, constamment derrière. Et je peux dire que je me suis battue. Je me suis battue pour elle. Mon mari s'est battu aussi pour elle, mais c'était son rôle. Là, je parle de moi, ce que j'ai fait moi. Vous savez, le matin, quand j'allais dans sa chambre, elle partait à l'école. J'allais dans sa chambre et je criais à Dieu. J'invoquais le sang de Christ sur elle. C'est pas facile pour nos jeunes aujourd'hui avec la séduction de ce monde. C'est pas facile. Et c'est pas le tout de leur dire « fais pas ci, fais pas ça ». C'est pas le tout de constamment les reprendre. Il faut aussi les encourager. Mais il faut aussi se battre dans la prière pour eux. Et je peux dire que pour elle, je me suis battue comme une tigresse, comme une lionne dans la prière. Et j'ai fait ça tous les matins jusqu'au moment où ça a lâché. Tant que ça ne lâchait pas, je me suis tenue dans la prière pour elle. Et quand je partais de sa chambre, elle a une chaîne dans sa chambre. Je mettais de la louange. Et je dis, Seigneur, elle est née pour te servir. Mais ça, je crois que nous, en tant que maman, on a une place à prendre dans ce combat-là. Une place précise que même pas l'homme peut tenir. Ça, c'est cette capacité d'enfantement que la femme a reçue. Et je vous encourage, s'il y a des problèmes avec l'un de vos enfants, courage, battez-vous dans la prière. Battez-vous dans la prière. Un jour, ça lâchera. Parce que le Seigneur est vainqueur. Le Seigneur est vainqueur. Vous savez, moi j'ai eu un... Donc on a 4 enfants. 2 filles. 3 filles plutôt, et un garçon. Mais sur les 2 premiers enfants que nous avons eus, on n'était pas encore chrétiens. La 3e, on l'a adoptée alors qu'elle avait 14 ans. Et le seul enfant que j'ai eu, que j'ai porté en étant dans le Seigneur, c'est mon fils, le dernier. Et cet enfant, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit à Dieu, ok, je veux bien de cet enfant. Vraiment, c'est une joie pour moi, je l'ai voulu. Mais s'il doit naître, c'est pour te servir. Et à peine il était dans mon sein, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai prié pour lui. Vous savez, un enfant dans le sein de sa maman est capable d'entendre, de comprendre, de ressentir ce que vit sa maman. C'est médicalement reconnu. C'est médicalement reconnu. Et quand il était dans mes entrailles, j'ai prié pour cet enfant. Je lui ai lu la parole. J'ai prophétisé sur lui. Et je sais ce à quoi Dieu l'appelle. C'est un enfant qui sert Dieu. Aujourd'hui, il a 18 ans, il sert Dieu. Par la grâce de Dieu, hein. On n'a jamais rien gagné. Et on n'a jamais rien gagné, hein. Mais dès le départ, pour les mamans qui n'ont pas eu encore d'enfants ou qui vont en avoir, écoutez, faites ça. Priez pour lui dès le départ. Lisez-lui la parole. Prophétisez sur cet enfant. Nos enfants doivent naître pour servir notre Dieu. Ils ne vont pas naître pour partir dans le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on ne doit pas les laisser partir dans le monde. On doit se battre. Au verset 28 du Proverbe 31, il est dit, « Ses enfants la disent bienheureuse. Elle retransmet le goût de vivre. » Elle retransmet le goût de vivre à ses enfants parce qu'ils la disent bienheureuse. Vous savez, une femme qui se lamente tout le temps, elle met le blues à ses enfants. Elle met la tristesse dans la maison. Les enfants, ils n'ont pas envie de rester. Quand une femme est toujours en train de se lamenter, toujours en train de pleurnicher sur ce qui ne va pas, les enfants, ils ont vite fait de partir. Alors que si on crée une atmosphère chaleureuse, alors l'enfant, il n'a pas envie de partir. Par la grâce de Dieu, nos enfants, Dieu nous a fait cette grâce, hein, vraiment. Et nos enfants, ils sont mariés, même ceux qui sont mariés, ils reviennent constamment. Ils reviennent constamment. Puis ils reviennent avec les époux et puis les petits-enfants. Et on vit des choses formidables. C'est une grâce de Dieu. Et je crois qu'on a tous cette capacité quand on comprend comment Dieu peut intervenir dans nos vies. On a cette capacité de pouvoir tous le vivre. Amen. Rappelez-vous, on a une page blanche devant nous. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes d'accord? Ok? Donc on n'est pas là pour dire, j'ai raté ça, j'ai loupé ça. On est là pour dire, Seigneur, aujourd'hui, je reprends les choses en main. Ok? Donc là, on a vu le rôle de la maman. Là aussi, il y aurait de quoi faire plusieurs soirées, je dirais même, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Mais là, on n'a pas le temps. Et là, je vais parler de la dimension de l'épouse. La femme, l'épouse. Celle avec laquelle le mari va développer une complicité spéciale. Vous savez, la plupart des divorces ou des séparations, des problèmes d'adultère arrivent dans des couples qui ont passé la quarantaine. Pourquoi ? Bon, il y en a avant, hein, mais la grosse majorité, après la quarantaine. Parce que, une fois que le couple a construit le foyer, il a construit la maison, il a eu des enfants, il a les meubles, bon, tout est fait. La vie, plus ou moins, elle s'est stabilisée. S'il n'y a pas eu une amitié développée entre les deux, alors c'est l'ennui qui vient. C'est l'ennui. C'est pour ça qu'il faut développer une amitié profonde entre la femme et le mari. Vous savez, le mot côté, en arabe, qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais contente d'apprendre ça. Je trouvais ça formidable. Le mot côté en arabe, ça veut dire mon ami. Et Dieu a créé la femme pour qu'elle soit l'amie de son mari. Et on développe une amitié dans le couple qui est spéciale, qui est unique. Il est mon confident. Je suis sa confidente. Et il me dit des choses qui m'intéressent que moi. Et je lui dis des choses qui n'intéressent qu'à lui. Et ces choses-là, on ne les dit à personne. C'est entre nous. C'est entre nous. Et lorsqu'il y a cette amitié forte qui est construite entre l'homme et la femme, alors, justement, dans les calamités de la vie, là, le couple tient bon. Et puis quand le couple se retrouve seul parce qu'il n'y a plus les enfants pour mettre de l'ambiance, ben vous savez, il pleurniche pas. Voilà, maintenant on est tout seul, on s'ennuie. Nous, on est heureux avec mon mari quand on se retrouve tous les deux. Alors des fois, j'ai ma fille aînée qui me dit, « Maman, dimanche, vous n'avez pas été invitée ?»« Non. » »« Vous venez à la maison ?»« Dimanche, non, on va rester tous les deux. » On a besoin d'être tous les deux. Besoin d'être tous les deux. Sans personne autour. Alors quand on peut se retrouver en amoureux tous les deux, vous savez, on n'est pas du tout malheureux. Pas du tout. On ne s'ennuie pas. On est bien. Alors on va voir que l'épouse est réceptive aux besoins de son mari, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel que sur le plan physique. Alors sur le plan matériel, vous l'avez compris, on parle de la tenue de la maison, la tenue du linge, etc., tout ce qui fait tourner la maison. Alors, ceci ne veut pas dire que, messieurs, la femme n'a pas besoin de votre aide. Parce que surtout quand la femme travaille, elle a besoin, elle rentre aussi à la maison, peut-être aussi tard que vous, elle ne peut pas tout faire. Parce que si elle rentre du travail fatiguée, qu'elle doit encore se taper tout ce qui fait tourner la maison toute seule, alors elle ne peut pas être disponible pour son mari. Là aussi, je crois qu'il faut être ça, il faut être sérieux, quoi. Hein. C'est pas parce que c'est la femme qui a l'œil sur la tenue du linge, sur la tenue de la maison. Ça, on le sait. On le sait, c'est quand même, en général, la femme qui a l'œil sur ces choses-là. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas sa part à faire. Sur le plan spirituel, la femme a besoin de développer sa relation avec Dieu. Le jour où on va paraître devant le Seigneur, on va répondre pour nous-mêmes. Amen. Donc la femme va développer sa relation avec Dieu. Et quand elle va développer sa relation avec Dieu, dans ce temps-là, elle va prier pour son mari. Elle va prier pour tous ses défauts. D'accord, hein ? Parce qu'ils en ont plein des défauts. Alors là, je veux simplement vous interpeller sur un fait. Que souvent, on peut se laisser aller à dire à notre mari tout ce qui ne va pas. T'es ci, t'es ça, t'es pas ci, t'es pas là. Mais je crois que ça, Dieu nous interpelle pour qu'on aille devant Dieu, pour porter ça devant lui. Et il y a beaucoup plus de résultats dans la prière que dans ces paroles qu'on balance en pleine figure. Parce que quand on dit les choses comme ça, en général, on blesse, mais on répare rien, on fait rien de bon. Par contre, lorsqu'on va devant Dieu, pour porter les choses qui sont valables. D'accord ? Porter les choses qui sont valables devant Dieu. Quand on voit des manques, je crois qu'aucun homme n'est parfait. De la même manière qu'aucune femme n'est parfaite. Faut être sérieux. Donc, si l'autre voit des défauts de l'autre, c'est pour les porter dans la prière. Et nous, en tant que femmes, on a ce rôle de porter nos maris dans la prière. Dans ce qui va, dans ce qui ne va pas. Et puis aussi, pour demander à Dieu d'être toujours présent dans sa vie. D'être toujours présent dans sa vie. Nous, nos hommes ont leur faiblesse aussi. Et puis aussi, le fait de développer ma relation avec Dieu fait que lorsque mon mari ne peut pas répondre à mes besoins, c'est Dieu seul qui peut y répondre. Amen. Si je n'ai pas de relation avec Dieu, je vais être tout le temps en demande auprès de mon mari, mais il ne peut pas tout le temps le faire. Ce n'est pas possible. Alors sur le plan physique, je rejoins le domaine sexuel. Là, il est dit dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul en parle. Il est dit, ne vous privez point l'un de l'autre, sauf pour vaquer à la prière. D'accord ? Je crois que là aussi, on a besoin de répondre aux besoins de nos maris. Les hommes ont aussi besoin de comprendre quand la femme est fatiguée. Elle ne peut pas toujours répondre. Mais la femme ne peut pas se cacher toujours derrière le « je suis fatiguée ». Parce que là, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes dans le sens où on a rencontré des hommes qui ont trompé leur femme, non pas parce qu'ils n'aimaient pas leur femme, mais parce que tout simplement, elles avaient décidé de ne plus répondre à leurs besoins physiques. Et c'est grave. Parce que là, on expose notre conjoint à être adultère. Et dans ce sens-là, on devient autant coupable que lui. Amen. Et je voudrais attirer aussi votre attention sur une chose que la femme fait assez facilement. C'est ce qu'on appelle le chantage en dessous de la ceinture. C'est-à-dire qu'elle va faire, elle va vouloir, par exemple, obtenir quelque chose. Elle veut s'acheter une belle robe. Et puis l'homme lui dit non, c'est pas le moment. Ou alors, elle veut une voiture très chère. Puis l'homme dit, non, écoute chérie, c'est pas le moment. Bon, c'est un exemple. Hein. Il peut y avoir toutes sortes d'autres exemples. Et la femme va faire une espèce de chantage. Elle va comme tirer vengeance. Et elle va le faire attendre. Elle ne va plus vouloir répondre à ses attentes sexuelles tant qu'il n'aurait pas répondu à sa demande. C'est très dangereux. Très dangereux, c'est une chose auquel il faut veiller. C'est du caprice. C'est un jeu diabolique. C'est un jeu diabolique. Et ça demande vraiment d'être porté devant Dieu. Il faut veiller à ne pas critiquer son mari devant les tierces personnes. Et de ne pas recevoir non plus de critiques le concernant. La Bible dit que nous sommes un, nous faisons une seule chair. Une seule personne, le couple. Et lorsque l'autre est critiqué devant moi, ou lorsque je le critique, c'est une partie de moi-même que je critique. Et en plus, ça montre des murs entre l'homme et la femme. Parce que vous savez, la parole est créatrice. Et lorsqu'on donne des paroles de bénédiction, elle crée la bénédiction. Mais lorsqu'on critique, on donne des paroles de malédiction et on crée la malédiction sur l'autre. Amen. Je veille aussi à être digne de confiance, c'est-à-dire que je ne lui mens pas. Je ne lui mens pas, je lui parle dans la vérité. Si j'ai des choses à lui dire, je ne le reprends pas en public. Je dois avoir cette capacité, en tant que femme, de voir les terrains sur lesquels je peux parler avec lui, mais pas en public. Si j'ai quelque chose à dire à mon mari, c'est quand on est tous les deux. Ce n'est pas mon enfant. Un enfant, même un enfant, on veille à ne pas le reprendre ou le disputer en public. On le prend, on l'emmène à l'écart et on lui dit ce qu'on a à lui dire, on lui met une fessée s'il y a besoin. À plus forte présence, son mari. Je veille aussi à la façon dont je m'habille. parce que je ne veux pas lui faire honte. Je veux bien être à la mode, mais je ne veux pas être indécente. On se comprend ? Et j'évite de développer un trait de caractère particulièrement diabolique, celui d'être querelleuse. Proverbe 19, verset 13, au Proverbe 25, verset 24, il est dit « Les querelles d'une femme sont comme une gouttière sans fin. » Et c'est vrai qu'une femme qui est tout le temps en train de chercher querelle, elle rend une maison invivable. Elle rend une maison invivable. On connaît des maisons où l'homme rentre le plus tard possible parce qu'il sait de toute façon qu'en rentrant, ça va mal se passer. Les enfants, ils n'ont pas envie de rentrer parce qu'ils savent que de toute façon, ça va râler. Proverbe 14, verset 1, il dit « Nous, que la femme sage bâtit sa maison, alors que la femme insensée la renverse de ses propres mains. » On l'a lu tout à l'heure, ce verset. Mes sœurs, la seule chose que je peux dire, c'est prions pour être cette sage influence que Dieu veut que nous soyons. Amen. Parce que notre rôle est beaucoup plus important qu'on peut le croire. Il est très important. Le rôle d'une femme dans sa maison, dans son foyer, est très important. Je vais arrêter là pour ce soir. Je vais demander à mon mari de venir prier pour ça.
On voudrait deux temps de prière, s'il vous plaît. Un temps par rapport à l'enseignement maintenant, et puis après un temps où ceux qui désirent qu'on prie pour vous, avec le pasteur ici, peut-être pour la maladie, pour des problèmes personnels, mais deux temps de prière, d'accord ? Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on puisse baisser la tête, et je voudrais prier pour les femmes qui ont été interpellées ce soir par rapport à l'enseignement, et celles qui pensent peut-être que c'est un rôle, c'est un devoir, c'est une position qui est inaccessible pour une raison ou une autre, ou que le Seigneur leur a montré qu'il y avait eu des difficultés où elles avaient comme raté le coche. Alors simplement, priez pour ces femmes-là. Donc, vous connaissez comment on fait, vous fermez les yeux, s'il vous plaît, par respect pour celui ou celle qui est à droite ou à gauche. Et si tu es concerné, personne ne regarde, mais mets la main sur ton cœur, s'il te plaît. C'est un signe devant Dieu. Et ne pense pas que Dieu sait toutes choses et que tu n'as pas besoin de signes. Quand Dieu a vu l'aveugle Bartimée, et l'aveugle était aveugle, Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle a dû dire, « Mais que je recouvre la vue. » Chaque fois, pour la guérison, enfin bien souvent, Dieu a demandé un signe. Et le signe que Dieu demande maintenant, pour cette guérison ou saisir son action souveraine dans ta vie, tu t'es reconnu ce soir, que tu vois que c'est impossible ou quoi, mets la main sur ton cœur s'il te plaît. Et je vais prier maintenant uniquement pour ceux et celles, pour celles qui ont leurs mains sur leur cœur. Seigneur, je veux te prier pour mes sœurs ce soir qui sont ici présentes, et qui, à la vue d'un tel enseignement, pense que c'est impossible. Seigneur, c'est toi qui renouvelles leur foi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons que toutes choses sont devenues possibles. Et nous proclamons que dans les situations difficiles dans lesquelles elles sont, que ces choses sont des choses anciennes, et qu'elles deviennent maintenant, par la puissance du nom de Jésus, des choses passées, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, que tu leur as donné les talents et les capacités dans leur vie, afin que toi, Dieu, tu fasses des choses nouvelles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, on prend un temps, 2 minutes, 3 minutes, dans le silence, et vous pensez aux situations qui ont été évoquées ce soir, et vous les amenez devant Dieu, s'il vous plaît. Dans le silence, nous voulons les déposer à la croix, parce que c'est là qu'elles vont trouver leur accomplissement.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.